à vos remerciements, en particulier au maître de séance, à Gronstein et Rachel Gronstein, et je les remercie aussi de l'accueil qu'ils font à ce séminaire, qui est un lieu de rencontre assez unique, je dois dire, pas seulement à Paris, et qui m'inspire d'ailleurs un certain nombre d'appréhensions, parce que vous avez souligné que j'étais journaliste, donc un journaliste entre toujours par effraction, le pied dans la porte, dans des domaines qui ne sont pas les siens. Alors là, je vais faire double effraction devant des éminents spécialistes en philosophie et en études juives, donc évidemment je demande l'indulgence du jury, comme de bien entendu. Par ailleurs, donc je pratique assez la philosophie dans d'autres espaces, et depuis assez longtemps, donc j'ose justement essayer d'apporter ma petite pierre à ce qui s'édifie lentement depuis bien des années, en grande partie grâce à Alexandre. Alors cet aperçu, je dois dire d'abord, porte sur un travail en cours depuis quelques années qui, comme vous l'avez dit, concerne la question de la liberté et à laquelle je suis philosophiquement parvenu par étapes, étape dont je vous épargne l'énumération, ça nous entraînerait vers d'autres domaines. Je dis tout de suite que mon propos se caractérise plus par des questions que par des réponses, et même il se terminera par des intuitions, au risque de décevoir, mais c'est quand même l'avantage d'un séminaire, de ce qui reste un séminaire. Et j'espère que la discussion nous aidera à formuler peut-être quelques réponses aux questions que je me pose. Et au risque encore de décevoir, je vais proposer plutôt un programme de travail qu'une doctrine solidement établie. D'où le caractère peut-être un peu fragmentaire de mon propos, qui est de l'ordre du work in process, auquel je vous remercie de contribuer d'avance dans les questions et des observations. Bon, je suis parti d'une évidence, que la liberté est un concept fondamental pour penser la politique, et donc la question qu'on doit se poser ici, c'est de savoir s'il l'est pour penser la politique juive, et la politique juive en exil, qui est notre sujet. En gros, peut-on penser la liberté politique, qui est, on le verra, un produit de la Grèce plutôt, à partir des sources juives ou non ? Telle est la question qui préside à ma réflexion. Alors, trois remarques. Inspiré par ce que j'ai entendu dans ce séminaire, inspire ma démarche de ce soir. Bon, la première est la lassitude partagée pour le tout politique. Donc, et derrière ce tout politique, une conception réductrice de la liberté entendue exclusivement comme non-domination. Et une envie de redonner à cette notion un sens positif. Les sources juives peuvent-elles nous y aider ? C'est toute la question que je me pose. Donc, le premier geste que je dois accomplir, c'est contre le tout politique, je vais dépolitiser la notion de liberté, pour tenter de retrouver un sens plus positif et plus profond de celle-ci. Ça ne veut pas dire que je considère que la liberté politique est un concept purement négatif, hein, mais disons que je pense qu'il faut aller aux racines philosophiques de la liberté pour essayer d'arriver à la pensée par rapport aux sources juives. La seconde remarque, c'est la quête et la conviction, qui est, je pense, au cœur de ce séminaire, en tout cas tel que je le perçois, que l'étude juive, d'une part, et la philosophie, et aussi les sciences sociales, de l'autre, peuvent entretenir des relations apaisées, ne pas se faire la guerre, forcément, ni se polariser les unes contre les autres. Je l'illustrerai par une anecdote qui m'a été racontée par mon ami le professeur Itzhak Melamed, grand spécialiste de Spinoza, et issu des chassidim de Karlin, et que j'espère bien nous aurons un jour ici même l'occasion d'entendre. Eh bien, il me disait que le Rama, le Rama Moïse Isserles, quand on lui demandait ce qu'il faisait le Shabbat après-midi, peut-être en été, répondait que comme le Shabbat c'était l'occasion de faire ce qu'on préférait faire, alors il y en avait qui se promenaient, mais lui, il aimait lire de la philosophie. Bon, alors je m'autorise de cette anecdote à vérifier peut-être. Pour essayer d'entretenir entre les deux démarches, encore une fois, comme le suggérait Marc Israël, je crois, des liens tranquilles, ce qui ne va pas de soi. Ma méthode consiste à chercher chez l'une ce qui peut servir à comprendre l'autre, un peu à la manière et dans l'autre sens, dans le sens inverse où Franz Rosenzweig disait que le judaïsme est une méthode. Alors, on peut dire aussi la philosophie pourrait être une méthode pour le judaïsme, pourquoi pas. Je pense que, comme vous avez eu la gentillesse de rappeler que j'étais traducteur, eh bien, au fond, j'essaye de faire une tâche de traducteur d'une langue à l'autre et inversement, sans chercher à hiérarchiser ni à opposer. Et enfin, la troisième remarque préalable, et l'inspiration que me donne non seulement la fréquentation de ce Beit Hamidrash, mais également la découverte que j'y ai faite, parce que je le connaissais mal ou peu, des commentaires de la Torah d'Abraham Hanel, des commentaires d'un homme versé, évidemment, dans la Torah, plus encore, mais aussi d'un homme qui a exercé des fonctions politiques, puisqu'il était le ministre des Finances du roi d'Espagne avant d'être expulsé en Italie. Et donc, à mon avis, il est pour le projet de notre séminaire une source à privilégier. Je l'ai découvert grâce à
la Syrie Archive.
Voilà, c'est ça. Donc mon propos s'articulera donc en deux parties. La première partie sera un survol philosophique qui tentera de cerner la notion de liberté afin d'arriver à une définition qui permette dans un second temps d'essayer de l'articuler aux sources juives, en particulier au premier verset de la paracha Mishpatim, qui, comme vous l'avez rappelé, se trouve être la paracha de cette semaine. Donc, pas par un hasard du calendrier. Donc, partie philosophique. Alors, la liberté constitue pour la politique moderne une notion essentielle, hein, à côté d'autres, bien sûr, comme l'égalité ou la justice. Mais à la différence de la dernière, il est plus difficile d'en trouver la trace dans la Torah, surtout si l'on estime, et on y reviendra, que l'idéal de liberté, c'est principalement, tel qu'on le connaît, constitué à partir d'une source grecque. Donc dans cette première partie, vous m'excuserez de résumer beaucoup. Je dirais que la liberté pose un problème de définition particulier, dans la mesure où, si elle est considérée comme l'apanage de la condition humaine, elle se heurte en même temps à l'évidence du déterminisme et de la causalité. Alors, celui qui a le mieux exprimé cette contradiction parmi les philosophes modernes, c'est évidemment Sartre, pour qui la liberté n'est qu'un phénomène qui concerne au fond la conscience, une conscience qui volette au-dessus de la masse de détermination constituée par ce qu'il appelle l'en soi, l'être. Ce qui est illustré par la nausée et par sa célèbre injonction paradoxale, nous sommes condamnés à être libres. qui est une façon de montrer à sa manière l'impasse d'une liberté que l'on ne peut pas ne pas penser. Et Sartre s'est vécu comme un philosophe de la liberté, au moins au début de sa carrière philosophique, mais qu'on ne peut percevoir dans un réel écrasé sous le poids de l'enchaînement des causes et des effets. Et donc, si philosophie moderne il y a de la liberté, elle peine à lui assigner une place, en tout cas une place positive, un contenu. Un des courants, un autre courant de la philosophie moderne, je veux parler de l'anthropologie philosophique, j'en parle parce que c'est un courant qui est en pleine découverte en France, où on a commencé à traduire, c'est un courant allemand qui, disons, pour faire simple, part de la philosophie à partir de l'homme, y compris conçu organiquement, c'est-à-dire de l'homme tel que les sciences comme la paléontologie, l'anthropologie physique nous le restitue, et pas seulement l'homme au sens de Descartes ou des philosophes plus classiques. En particulier, parmi ces philosophes, nous avons des gens comme Arnold Genel, Helmut Plessner, etc. Il y en a un qui n'est pas d'ailleurs à proprement parler identifiable comme un anthropologue philosophique, mais enfin qui l'est négativement. Je veux parler de Günther Anders, le mari d'Anna Arendt, enfin le premier mari d'Anna Arendt, qui a écrit un texte tout à fait, qui vient d'être traduit en français, qui s'appelle « Les pathologies de la liberté ». Un texte très très important. Dans ce texte, il nous dit, comme d'autres tenants de ce courant d'ailleurs, que la spécificité humaine par rapport aux animaux, aux pierres ou aux plantes, consiste à se couper ou à être coupé de son environnement. En somme, la liberté, cette coupure, cette capacité de se couper de l'homme, de se couper de son environnement, devient la conséquence d'une faiblesse typiquement humaine, du fait que, contrairement aux autres espèces, on retrouve l'argument souvent, l'homme ne parvient pas à anticiper à son environnement, à être pleinement lové dans la nécessité de son Umwelt, de son environnement, à s'y trouver d'emblée inclus. Ainsi, beaucoup de ces tenants de l'anthropologie philosophique mettent en avant un phénomène très évident, celui de la néotonie, il faudrait que j'ai un tableau, ou de ce qu'on appelle aussi non, l'altricialité secondaire, c'est ça signifie simplement le fait que l'enfant humain, contrairement au jeune poulain, par exemple, qui gambade à peine sorti des entrailles de sa mère, la jument, ben, l'enfant humain met très longtemps à s'autonomiser, à sortir de la dépendance de ses parents. On dit d'ailleurs qu'un embryon humain pourra sortir avec un cerveau pleinement formé, devrait naître à 18 mois. Donc il y a toute une période où en fait il est encore quasiment en formation. C'est le cas particulier de l'espèce humaine, ce retard par rapport à l'autonomie, qui implique non seulement une dépendance plus longue vis-à-vis des parents, mais aussi la nécessité que le monde humain ait une éducation et une culture. Et cela entraîne une scission vis-à-vis du monde qui n'est pas d'emblée pour l'humain son monde. En somme, ce qui caractérise l'homme d'un point de vue anthropologique est donc bien plus la dépendance que la liberté et sa capacité de se couper du monde, fût-ce pour le penser, hein, pour le mettre à distance, est la résultante d'un manque, d'une faiblesse. Alors, dans les multiples partant de là, faut-il se résigner, un peu comme Sartre, à limiter à la conscience ou à la connaissance, hein, la liberté étant limitée à la connaissance. C'est une interprétation qu'on tire souvent de Spinoza, l'idée que la seule forme de liberté qu'on ait soit dans la connaissance, la connaissance de nos déterminismes, quitte à pouvoir les opposer les uns aux autres, c'est comme le suggèrent les spécialistes. Telle est la question qui se pose à quiconque veut tenter de penser quelque chose comme la liberté moderne. Les tentatives faites par les philosophes contemporains pour donner quand même un sens positif à cette notion de liberté aboutissent souvent à des résultats branlants ou décevants. Et je risquerais l'hypothèse que le tout politique dans lequel se réfugie quiconque cherche à exprimer la liberté comme non-domination, c'est-à-dire de façon purement négative, hein, que ce soit Isaiah Berlin ou dans son fameux texte sur la liberté positive et négative, ou les études postcoloniales, cette façon de limiter la liberté à la non-domination provient du malaise qui entoure la définition du concept. Alors, une question que je pose, qui peut paraître un peu énigmatique, est-il possible de penser la liberté en dehors de l'homme, en dehors de l'anthropologie, c'est-à-dire en dehors de la spécificité humaine ? Bon, et en posant cette question, je ne cherche pas... je dois le préciser, à interroger le sens qu'il y aurait à penser la liberté des bêtes, des rochers ou des plantes, comme le suggère un certain nombre de penseurs intéressants. D'ailleurs, j'ai encore Bruno Latour. Alors, très intuitivement, pourtant, la plupart d'entre nous a tendance à assimiler la liberté humaine à la faculté de faire ce que l'on veut, ce qui correspond en gros à la liberté du choix, de la décision, sans être assigné par aucune cause, quelle qu'elle soit. Cela suppose l'assimilation de la liberté à la pure volonté, sans relation à la rationalité ni conformité à la nature. Alors, cette conception de la... Je m'empresse de dire que cette conception de la liberté comme choix a mauvaise presse dans la philosophie. Peut-être pour la raison qu'elle ne s'accorde pas, pensée en sa radicalité, avec le rationalisme métaphysique, et même introduit dans la raison un abîme, une épreuve, un défi à sa vocation universelle. Et en plus, elle met en péril la hiérarchie traditionnelle depuis Platon qui place les instincts et l'affect sous le contrôle de l'intelligible. Donc, à côté de la dépréciation du libre arbitre comme plus bas niveau de la liberté, hein, je parle sous le contrôle d'un arbitre chez Descartes, la philosophie a longtemps cherché à neutraliser la liberté comme liberté de choix, en stigmatisant cette liberté de choix comme liberté d'indifférence, qui au fond est caractérisée plus par l'ignorance que par l'ignorance des causes que par l'autonomie. Alors, notons très rapidement que l'idée commune que la liberté réside dans celle du choix est d'ailleurs tardive. Elle se constitue à la fin de l'Antiquité, en particulier liée chez Cicéron, Saint-Augustin. À l'opposition de cette conception, être moderne consisterait à soutenir que le déterminisme est implacable, que notre liberté de choix n'est qu'une illusion ou la simple ignorance, tandis que le seul espace laissé à l'émancipation, c'est encore une fois la connaissance. Mais est-il vrai que le savoir et la connaissance nous émancipent ? Quelle est cette liberté qui ne se reconnaît que comme affranchissement de la part de nous-mêmes que l'on appelle les affects et que la tradition philosophique estime que nous la partageons avec les animaux ? Donc qui n'est pas authentiquement ou spécifiquement humaine ? Et qu'elle voit comme livrée à l'instinct et au physicisme. Un philosophe catholique italien, du nom de Luigi Parezzone de Turin, a tenté de cerner cette notion si volatile de liberté dans un ouvrage très profond, mais insuffisamment connu, quoique traduit en français, qui s'appelle « Ontologie de la liberté ». Il est paru aux éditions de l'Éclat en 1995. Et il y défend le point de vue selon lequel le programme de la philosophie moderne, depuis Descartes jusqu'à Fichte, ça fait déjà pas mal, aurait consisté dans l'élaboration d'une philosophie de la liberté. Mais, dit-il, ce programme s'est trouvé entravé par le fait que le concept de liberté n'a pas réussi à être complètement dégagé de la notion de nécessité. Au terme de la philosophie moderne, ajoute-t-il, c'est cependant trouver quelqu'un pour le relancer avec des propositions pleines de promesses, dit-il, ce fut Schelling. Alors en quoi consistent ces promesses très rapidement ? Ce que Schelling, notamment dans son texte célèbre « Réflexion sur l'essence de la liberté humaine » de 1809, dont Heidegger, j'hésite toujours à prononcer ce nom ici, disait que c'était le texte le plus profond de l'idéalisme allemand, donc je vous invite tous à le lire, donc Paresson dit que Schelling apporte de décisif à l'idée de liberté que Dieu, c'est que la liberté ne doit pas être pensée, la liberté humaine en fait n'est pas la liberté des hommes, c'est la liberté de Dieu lui-même, qui n'est concevable qu'en tant qu'il accorde à l'homme une liberté impliquant la possibilité de faire le mal. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Reconstituons très brièvement l'argument. Comment imaginer, demande Schelling, un Dieu immobile, qui soit, comme le premier moteur immobile de la physique d'Aristote, privé de la capacité d'agir ou de créer ? Est-ce que cette immobilité ne rendrait pas Dieu inférieur à l'homme ? Donc si Dieu ne peut être conçu que comme mouvement, Dieu, dit Paresson, commentant Schelling, doit se mettre lui-même en péril pour être intégralement Dieu. Il doit pour cela se faire autre que lui-même, afin de se mettre à distance de lui-même. Il doit donc affronter la rébellion humaine. Le commencement absolu est donc moins la création, dit Schelling, que le Dieu capable de dire « je » en s'engendrant lui-même, donc en se mettant à l'écart de lui-même afin d'accéder à la conscience de soi, avec pour conséquence de laisser place à l'homme et moins au mal qu'à la possibilité du mal. Bon, je passe un peu sur cette dramaturgie religieuse schellingienne qui, en fait, a bien des échos de la Kabbale médiatisée par la lecture de Jacob Böhm. Et d'ailleurs, Schelling était un bon hébraïsant, donc il lisait les sources hébraïques qu'il avait à sa disposition, en tout cas. Pour conclure que la réalité, que l'homme n'est pas l'origine du mal par sa liberté, mais quand il s'affranchit, il est l'auteur du mal, l'origine du mal, quand il s'affranchit de sa dépendance à Dieu en prétendant s'arroger et imiter le processus d'auto-engendrement divin qui a transformé le non-être passif en mal. En fait, l'homme ayant la possibilité de faire le mal est libre et en imitant Dieu, il fait advenir le mal dans le monde. L'homme a donc introduit le mal en prétendant imiter Dieu et en se croyant la pure origine de ses actions. Mais dans sa souffrance, dans la souffrance qu'il éprouve, il éprouve aussi que la puissance de la douleur vient de ce que Dieu lui-même souffre, d'où le sens des colères divines. Il comprend que le mal n'existe que parce que Dieu s'autolimite, se met en retrait, pour parler dans un langage qui nous est plus familier, ce qu'on appelle dans le christianisme la kénose ou le tzimtzum dans la Kabbale, afin de laisser place à l'homme. La douleur est le lieu de solidarité entre Dieu et l'homme. C'est l'acte de rotation du positif au négatif qui rapproche l'homme de Dieu. Alors, retenons simplement que chez Schelling, la liberté, en somme, ne se conçoit pas comme une propriété de l'homme, mais à l'inverse, c'est l'homme qui est le bien propre de la liberté. La liberté est l'essence qui contient et qui transit d'un bout du monde à l'autre l'être homme. C'est à elle que l'homme doit être conduit pour devenir véritablement homme. Alors, qu'est-ce que c'est que cette liberté qui n'est pas humaine, qui est celle de Dieu ? Je reconnais que c'est assez contre-intuitif, mais c'est à partir de cela qu'on, qu'on peut essayer de formuler un concept de liberté originale, comme étant une détermination non de l'homme, mais de l'être en général. Il y a une façon délibérément non anthropologique de poser le problème de la liberté qui a au moins l'avantage d'évacuer la question du choix, du libre arbitre qui nous place dans l'aporie de l'opposition entre le déterminisme et la liberté. Bon. J'arrête là les considérations d'ordre purement philosophique pour interroger à partir d'elles la Torah, dont on pourrait penser que la description de la liberté est surdéterminée, dont on pourrait penser a priori, et on l'entend souvent, que la conception de la liberté dans la Torah est surdéterminée par une conception de la liberté comme libre arbitre dans le récit de Béréchit et du Gan Eden. Alors mon interrogation consiste à savoir s'il y a des enseignements alternatifs qui permettrait de concevoir autrement la liberté plutôt que de se résigner à concevoir que la liberté ne soit pas une notion qu'on puisse tirer des sources juives. Ce qui aurait pour résultat qu'on ne pourrait pas non plus... il ne serait pas non plus question d'y chercher des sources pour la politique moderne et la politique juive. C'est pour ça que je passe à ma seconde partie... sur plus centré, mais pas exclusivement sur les sources juives. Donc j'ai trouvé intéressant, encore une fois, pas pour des raisons de calendrier, des parachiotes, de me pencher sur les premiers versets de la paracha Mishpatim, afin de nous dire ce qu'elles disent de la liberté, c'est pas leur propos, bien sûr, à travers l'esclavage. L'esclavage hébreu, dont le statut se voit défini là, et aussi il sera précisé dans la paracha Behar au chapitre 25 de Vayikra. Je me permets de lire le texte dans la traduction du rabbinat. Et voici les statuts que tu leur exposeras. Si tu achètes un esclave hébreu, il restera 6 années esclave, et à la 7e, il sera remis en liberté sans rançon. S'il est venu seul, seul il sortira. S'il était marié, sa femme sortira avec lui. Si son maître lui a donné une femme, laquelle lui a enfanté des fils ou des filles, la femme avec les enfants appartiendra à son maître et lui se retirera seul. Que si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas être affranchi », son maître l'amènera par devant le tribunal, on le placera près d'une porte ou d'un poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon et il le servira indéfiniment à Dolam. On verra ce que ça veut dire. Si un homme vend sa fille comme esclave, elle ne quittera pas son maître à la façon des esclaves. Si elle lui déplaît, c'est-à-dire si elle déplaît à son maître et qu'il ne la réserve point à lui-même, il la laissera s'affranchir. Il n'aura pas pouvoir de la vendre à une famille étrangère après l'avoir déçue. Que s'il la fiance à son fils, il procédera à son égard selon la règle des filles. S'il lui en adjoint une autre, il ne devra point la frustrer de sa nourriture, de son habillement, ni du droit conjugal. Et s'il ne procède pas à son égard de l'une de ces trois manières, elle se retirera gratuitement sans rançon. Et j'ajoute délibérément, avant de clore cette lecture, le verset qui suit, et qui pourtant concerne apparemment un autre sujet pour des motifs qu'on va comprendre plus tard. « Celui qui frappe un homme et le fait mourir sera puni de mort. » Donc commençons par une question très simple que j'ai évoquée la dernière fois. Pourquoi la Torah n'a pas tout simplement aboli l'esclavage? On est dans Mishpatim, on est après la Parasha Yitro, les Aseret Dibrot. On aurait pu s'attendre, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai, à ce que la Torah dise tout simplement ben, « tu n'auras point d'esclaves ». Pourquoi commencer par ces règles qui, bon, à nos oreilles modernes, quand même, sont quelque chose d'un peu choquant. Alors, après tout, la Torah contredit certaines... Alors, on dit parce que L'explication traditionnelle consiste à dire bah, parce que dans la société antique, archaïque, etc., mésopotamienne, l'esclavage était une telle évidence qu'on ne pouvait pas le supprimer. Mais la Torah ne se prive pas de contredire, voire de proscrire certaines des réalités les mieux ancrées dans les sociétés de son temps, hein, par exemple, à commencer par l'idolâtrie, le polythéisme, le sacrifice humain, etc., le meurtre. Donc, encore une fois, les 10 paroles du Sinaï auraient dû comporter un commandement formulé comme suit : tu n'auras pas d'esclaves. Et j'ajoute, pour que ça nous aurait bien arrangé, nous autres juifs, aujourd'hui, dans le contexte actuel des discussions sur l'histoire de l'esclavage et les études postcoloniales, de pouvoir soutenir que la Torah constitue le premier manifeste abolitionnisme. On aurait moins d'ennuis avec certains groupes. D'ailleurs, Hachem, on le sait, hein, là je ne fais que dire des évidences, se fait connaître au Bnei Israël comme celui qui a fait sortir les Hébreux de l'Égypte d'une maison d'esclavage. Alors pourquoi n'en est-il pas ainsi ? J'ai dit que les arguments habituels qu'on avance pour justifier l'existence de l'esclavage dans la sphère de la Torah ne me paraissent pas toujours probants. On dit aussi souvent qu'elle s'est contentée de l'encadrer au point de l'atténuer, ce qui est vrai bien sûr, voire de le réduire à une situation qui frôle parfois l'absurde. Par exemple, si le maître a un seul lit, il est censé laisser son lit à l'esclave hébreu et ne lui prescrire aucun travail dégradant. On y reviendra bien sûr. Alors il y a un autre argument qui est un argument économique, qui viendrait justifier l'esclavage, peut-être même presque au nom de la justice sociale. La misère poussait certains à se vendre eux-mêmes, ou certains condamnés, les gonvim, les voleurs, mais accusés de rapt, je crois, c'est-à-dire de grands voleurs, pouvaient être mis en vente comme esclaves par le Beddin. En fait, je ne suis pas convaincu, et d'ailleurs les spécialistes de l'esclavage antique ne sont pas non plus convaincus, que les racines du phénomène de l'esclavage soient économiques, ni même vraiment militaires. On pourrait aussi soutenir que la cause pour laquelle l'esclavage n'est pas aboli par Aseret Hadibrot tient au fait que le texte nous dit à plusieurs reprises que l'esclavage, la Torah nous dit à plusieurs reprises que l'esclavage était cher aux Hébreux. Et effectivement, il ne cesse de gémir aux oreilles de Moshe, qu'il regrette l'odeur des marmites de viande égyptienne et préférait retourner à leur servitude que d'assumer cette vie libre au désert, au risque de mourir de faim et de soif. Alors, on peut quand même s'en étonner s'agissant d'hommes qui ont été nourris, qui sont nourris par miracle de la manne et de la caille, d'un peuple qui a vu Hachem et ses miracles au Sinaï. Qu'est-ce que peuvent regretter les Bnei Israël en Égypte, dans un pays où on a été jusqu'à précipiter leurs enfants mâles dans le Nil, et où on les exploitait au-delà même de ce que Dieu avait prévu comme purification de leurs fautes? Ce qui nous choque et qui choque encore nos conceptions de la liberté centrée sur la non-domination peut-être se comprendre en affinant le regard. D'abord, je me permettrai de citer ce que dit le Rav Bronstein, mais les erreurs et les malentendus sont miens. Cette nostalgie incompréhensible du peuple pour l'Égypte pouvait ne porter que sur la dernière année de leur séjour égyptien, correspondant à celle des Makot, au cours de laquelle le travail et l'exploitation avaient de facto pris fin. On peut aussi soutenir que la conception de la liberté n'était pas la même que la nôtre. Ils pouvaient en posséder des notions de liberté sans forcément l'ériger en valeur, dès lors qu'on entend par valeur un idéal partagé par une masse critique de personnes et un idéal qui n'est pas seulement interpersonnel, mais social, pas seulement éthique, mais aussi politique. Or, dans le monde antique et archaïque, la bonne vie demeurait une vie d'obéissance et d'intégration dans des réseaux holistiques. Au contraire, l'homme et la femme affranchis avaient le même statut que l'orphelin. Dans l'Égypte ancienne, par exemple, le terme qui signifie affranchir, soit, on ne pas prononcer, NMH, signifie être rendu orphelin. Et d'ailleurs, dans la longue période de l'esclavage, les esclaves libérés n'avaient de cesse que de se faire adopter par leur ancien maître. Donc, dans ce contexte, la réaction du peuple se laisse peut-être un peu mieux saisir. Dans ce qui suit, dans la tentative de penser la liberté à partir de l'esclavage, je m'appuierai non pas seulement sur Mishpatim mais sur Avravanel, mais aussi sur un livre important, bien qu'il amène à discussion, qui est un classique des études postcoloniales. Je ne crois pas malheureusement qu'il soit traduit en français, donc il faut le lire en anglais. Je veux parler de l'ouvrage qui s'appelle Freedom in the Making of Western Culture, du sociologue et historien Orlando Patterson, qui est l'autorité sur l'histoire de la grande autorité de l'histoire sur le, de l'histoire de l'esclavage, et qui est notamment l'inventeur, ou en tout cas celui qui l'a appliqué à l'histoire de l'esclavage, de la notion de mort sociale. Donc Patterson décompose la notion de liberté en une triade. La liberté personnelle, premièrement la liberté personnelle, deuxièmement ce qu'il appelle la liberté souveraine, et troisièmement la liberté civique. Alors lui, contrairement à Rousseau, hein, celui qui dit l'homme est né libre et partout il est dans les fers, Patterson pense au contraire que l'esclavage est le phénomène premier à partir duquel seul il est possible d'agencer quelque chose comme la liberté au sens d'une valeur. Et pour lui, c'est lui qui soutient que cela n'advient que, c'est-à-dire une valeur sociale et politique, pour lui, cela n'advient que dans la Grèce du 5e siècle, à partir d'une prolifération de l'esclavage, qu'il assigne à diverses raisons que peuvent discuter des historiens. En tout cas, dit-il, c'est dans la Grèce antique que s'enracine, selon lui, notre valorisation typiquement occidentale de la liberté. Ça ne signifie nullement que les aspirations individuelles à la liberté n'aient pu se manifester avant, y compris chez les malheureux captifs des sociétés primitives, souvent voués à une mise à mort atroce qui devait leur donner assez envie de fuir. Bon, Patterson montre par ailleurs que l'idée de liberté souveraine, donc sa deuxième définition de la liberté, coïncide particulièrement avec l'Égypte ancienne, et en particulier dans la figure du fameux pharaon Akhnaton, en qui Freud voyait l'inspirateur de Moïse. L'idée d'un roi-dieu qui est libre, mais qui est le seul à l'être, et qui confère sa gloire à ceux dont la liberté n'existe que dans leur soumission au souverain. Patterson ajoute qu'Akhnaton joue un rôle dans l'histoire de la liberté comme la figure préromantique d'une liberté individuelle qui s'exprime par la maîtrise d'un seul sur tous, fût-ce par la folle tentative de défaire les liens de la société traditionnelle et des réseaux anciens de dépendance, en l'occurrence les prêtres de l'ancien culte. Ce que d'ailleurs n'a pas fait Joseph. En somme, la servitude équivaudrait au cadre normal de l'existence politique, hormis le souverain. Et ce serait cet état de fait qui pourrait rendre compte de l'incompréhensible nostalgie des Bnei Israël pour l'Égypte. D'ailleurs, continue Patterson, si les Hébreux étaient esclaves en Égypte, ils l'étaient à titre collectif, comme c'était souvent le cas aussi, et non pas individuel. Ils étaient les esclaves du roi. Et cet esclavage absolu définissait l'étendue tout aussi absolue de la liberté du seul monarque auxquels était implicitement réservée l'idée de la liberté comme pouvoir sans frein. C'est-à-dire qu'on voit se constituer, encore une fois, la liberté du souverain par l'esclavage de ses sujets. Le terme égyptien apirou, donc ça s'écrit sans H en égyptien, avec un H en acadien, bon, s'il est lié en quelque façon à Ivry, dénote un statut de groupe inférieur d'origine étrangère. Il est tentant, il est évidemment tentant de transposer ce modèle à la soumission des enfants d'Israël au joug d'Hachem, puisqu'aussi bien on peut considérer la sortie d'Égypte moins comme un passage de la servitude à la liberté, hein, contrairement au fameux livre de Michael Walzer, dont j'espère aussi que nous aurons l'occasion de l'entendre, que comme la transition d'un esclavage liturgique à un autre, de Paro à Hachem, sans que la structure de la soumission ne soit entamée. Et bien sûr, tel n'est pas le cas, je ne veux pas choquer, je ne veux choquer personne. Mais peut-on en conclure que la liberté n'a jamais constitué une valeur centrale chez les Hébreux, ni les Juifs, ni dans la tradition juive? Que le séjour en Égypte aurait apporté aux Hébreux, ce serait plutôt, et c'est ce que conclut Patterson, un sentiment durable d'identité ethnique, une passion pour la justice et une sensibilité pour le droit de l'étranger, mais pas du tout une passion de l'émancipation, et encore moins une pensée de la liberté. Et dernière question, une lecture rapide, rassurez-vous, des règles de l'esclavage hébreu va-t-elle nous aider à nuancer cette tentation? Et peut-on se satisfaire de constater le paradoxe qui veut que l'esclavage d'Hachem soit la liberté, que la liberté soit au fond l'obéissance, comme si on pouvait sérieusement concevoir que l'essence de la liberté reposait sur une obéissance. Alors avant de tenter de donner des éléments de réponse à ce questionnement, je m'attarde sur un autre concept développé par Orlando Patterson, et qui explique aussi une des raisons pour lesquelles j'ai cité le verset qui suit immédiatement la question de l'esclavage, le lien qu'il établit entre l'esclavage et la mort. Donc l'esclavage, il le définit comme mort sociale, d'où son insistance à décrire l'esclavage dans les sociétés primitives comme l'antichambre d'une mise à mort finale. Il s'appuie sur les études célèbres d'Alfred Métraux chez les Tupinambas, bon, je ne rentre pas dans le détail. Mais dans les sociétés premières ou primitives, comme on voudra, la tâche de l'esclavage était indélébile et aussi définitive que la mort. La mort sociale équivalait à la mort physique en la précédant souvent. Et une fois mort, vous le restiez. Pas d'affranchissement possible, donc, ni de libération. L'esclavage est une domination permanente, violente et personnelle de personnes aliénées et généralement déchues de leur honneur. Par là, il montre qu'il décroche, il détache l'esclavage de ses causes économiques. L'esclavage sous-entend un pouvoir de vie et de mort du maître sur l'esclave. Et donc, bien plus que des causes économiques à l'esclavage, Patterson assigne des raisons qu'il appelle timocratiques, hein, du mot timos en grec qui signifie honneur, liées à la question de l'honneur, dont il dit d'ailleurs qu'elle a perduré jusque dans le sud des États-Unis esclavagistes, qui effectivement est caractérisé beaucoup, y compris dans les fictions, hein, et dans les films, comme une civilisation où l'honneur survivait, contrairement à la civilisation prosaïque des Yankees. Eh bien, dit Patterson, cet honneur était fondé justement sur l'extension extraordinaire qui avait pris le phénomène de l'esclavage. Plus le maître dégrade l'esclave, plus il se conforte dans son statut de non-esclave et renforce cet honneur. Alors mon idée, plutôt la direction que j'aimerais donner à ma réflexion, est que la Torah, comme on l'a vu, aborde quand même la liberté par le biais de l'esclavage, en affinant l'assertion générale selon laquelle l'homme libre est celui qui n'est pas un esclave. On trouve chez les commentateurs, en particulier chez Abravanel, on y vient, des intuitions de ce que nous avons, enfin des intuitions, en tout cas des formulations qui rappellent celles qui seront celles de Patterson. Et qui vont nous permettre, contrairement à Patterson, de découvrir peut-être l'ébauche d'une théorie de la liberté dans la Torah, notamment une pensée de l'affranchissement. Donc je passe maintenant aux commentaires, brièvement, aux commentaires sur les premiers versets de Mishpatim par Abravanel. Donc Abravanel commence à titre d'introduction par soutenir que l'exposition des versets de la Torah suit un ordre logique, ignani, sinon chronologique, même si, dit-il, on dit souvent qu'il n'y a pas d'avant et d'après dans la Torah. Et c'est cette remarque préalable est importante parce qu'elle lui permet de situer la question de l'esclavage par rapport aux Aseret Hadibrot, justement. Et nous allons voir de quelle façon. Donc si nous, les modernes, on peut être choqués de constater que les souffrances de l'Égypte n'ont pas permis l'invention précoce de l'abolitionnisme, il faut remarquer que les premières règles de droit civil, hein, Ben Adam le Ravero, dit-il, portent sur le sujet de l'esclave hébreu et que cette place privilégiée a bel et bien un sens. Et on va essayer de le voir tout en gardant à l'esprit la thèse que j'estime féconde quand même de Patterson, selon laquelle la liberté ne se conçoit pas sans l'esclavage, que l'esclavage est un phénomène premier pour penser la liberté. Abravanel voit dans cette place de choix de l'esclavage, c'est-à-dire en tête dans les premiers versets de la Parasha Mishpatim, non un substitut à une absence d'interdit de l'esclavage, mais la suite du commandement « tu ne tueras point ». L'Otir Tsar, anticipant donc, à mon avis, l'idée que l'esclavage équivaut à une mort sociale. Pour Abravanel, les lois divines données au Sinaï doivent différer en substance, non seulement, pour Abravanel d'ailleurs, pour beaucoup d'autres commentateurs, non seulement de celles des Noahides, mais aussi de celles des nations. Et ces différences, dit-il, sont au nombre de deux. Hein, Abravanel, qui est un homme d'ordre, aime bien les classifications. La première découle de la nature même de ces lois qui sont divines, et la deuxième différence porte sur les peines, mais surtout les rétributions qui découlent de l'observation de ces lois. Certes, dit-il, la transgression du « tu ne tueras point des nations » comporte un châtiment, dans le code d'Amourabi, par exemple, mais l'observance des mitzvot implique aussi la possibilité de la faveur divine. Et Abravanel observe que les lois telles qu'elles sont énoncées dans Mishpatim relèvent de la catégorie de celles que le peuple a voulu entendre de la bouche de Moïse et non plus de celles d'Hachem lui-même pour des raisons qu'expliquent les commentateurs. Il les situe donc dans la continuité de la paracha Yitro. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il explique le vav du début de la paracha de Ve'elé à Mishpatim. Il dit ce vav est ici englobant. Il signifie pose devant eux les choses qui sont incluses dans celles qu'ils ont déjà entendues. Et dans le traité Gittin, il est précisé devant eux, c'est-à-dire non devant les goyim. C'est Gittin 88b. Donc, ce que Abravanel cherche à nous dire, c'est que dans ce début de Mishpatim, on ne se situe pas non plus, je devrais dire, dans le domaine de la loi naturelle ni du common sense, même si ces lois et ces règlements tels qu'ils sont énoncés dans Mishpatim peuvent avoir l'apparence de celles des codes régionaux de l'époque. Hein, on les retrouve pratiquement mot pour mot, encore une fois, dans le code d'Amourabi, dans des textes akkadiens, et autres documents juridiques mésopotamiens. Dans les lois des nations, dit-il, tu ne tueras point signifie qu'il ne faut pas mettre à mort son prochain et rien de plus. Dans l'Otir Tsar sont incluses toutes les lois qui sont placées ici dans cette paracha. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, dit Abravanel, ce caractère englobant des Aseret et des Ivrot. Si donc on considère qu'une suite logique s'est mise en place et que les règles énoncées au début de Mishpatim découle des cinq dernières paroles qui concernent les obligations d'un homme envers son prochain, Ben Adam le Ravero, c'est à la lumière de ces dernières que doivent s'éclairer les premiers versets de notre paracha et par conséquent le lien entre la question de l'esclavage et l'interdit de tuer. Si on applique ce principe d'inclusion et de développement, il faut convenir que les cinq dernières paroles sont le déploiement de la première des cinq, l'Otirtsa, qui est bien avant Lévinas, prend ici chez Abravanel une place privilégiée. La tâche du commentateur consiste à dérouler ce qui est implicitement contenu dans la première proposition et à lier en tous ces règlements en apparence disparates avec la première règle qui joue en quelque sorte le rôle d'un principe, le principe dynamique, j'oserais dire poétique, des autres. Alors, il n'est nullement fortuit que la première injonction concernant l'esclave hébreu et sa servante se situe à la même position textuelle que tu ne tueras point. Tout se passe comme si la Torah venait nous dire qu'il ne fallait pas se comporter envers les esclaves comme le fait un assassin. Qu'il ne faut pas tuer un homme alors qu'il est encore en vie, ce qui se trouve au fond de la condition d'esclave, auquel on fait mener au mieux une demi-vie. L'esclavage, c'est un meurtre. La qualification de meurtrier est extensible à des cas qui ne mènent pas directement ou totalement à la mort physique, et le « tu ne tueras point » s'applique aussi à des situations de mort sociale. Et tel est évidemment le cas de l'esclavage. Et il n'en va pas de même, répète Abravanel, des lois noahides ou de celles des nations, lesquelles se contentent de proscrire le meurtre, évidemment pas l'esclavage, sans l'ériger en paradigme. Alors, concernant la lecture qu'Abravanel propose des versets sur l'esclave hébreu, je repose la question de savoir si on peut y lire à contre-jour une théorie de la liberté et laquelle. Selon sa méthode, Abravanel commence, comme ça a été dit ici, par poser une série de questions au deuxième verset de la paracha, si tu achètes un esclave hébreu. Donc les questions qu'il pose sont au nombre de trois. Pourquoi la Torah commence-t-elle son énumération des lois par celle de l'esclave hébreu? Ça, on y a relativement répondu. Et l'usage étrange ici de l'adjectif hébreu, ivri, de préférence à celui de Bené Israël, à son importance, puisque cela implique que les règles de l'esclavage s'étendent au-delà de la catégorie restrictive des seuls descendants de Yaakov. La deuxième question concerne les raisons pour lesquelles Hachem a fixé à 6 années révolues le temps de la servitude. Et enfin, la troisième question, à quoi sert la précision s'il est venu seul il sortira, sur laquelle je ne m'étendrai pas. Donc la réponse à la première question se subdivise en deux réponses. La première découle de la première parole prononcée au Sinaï, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte de la maison d'esclavage. » Préface indispensable, note Abravanel, à toutes les autres paroles qui précisent que du fait qu'Hachem nous a fait sortir d'Égypte, nous sommes devenus ses serviteurs, avadav, ses esclaves à lui. Voilà ce qui explique pourquoi il est a priori indigne que ses serviteurs ou ses esclaves veuillent d'eux-mêmes retomber dans la servitude d'un autre homme. Comme il est dit dans Vaïkra 25-42, « Car ils sont mes esclaves à moi qui les ai fait sortir du pays d'Égypte. Ils ne doivent pas être vendus à la façon des esclaves. » Et je renvoie aussi à Kiddushin 22b. Et de même, d'ailleurs, dans Kiddushin, est-il rappelé que si l'on poinçonne l'oreille de l'esclave qui refuse d'être libéré à l'issue des 6 années révolues, et qui restera donc esclave ad olam, c'est-à-dire en fait jusqu'au prochain jubilé, qui correspond à peu près à une génération, c'est parce que Hachem a libéré les Hébreux en passant au-dessus de leur porte et que ceux-ci ont accepté en retour de le servir. Or, dit Rabbi Shimon bar Rabbi Yehuda, voici un homme, celui qui veut demeurer auprès de son maître alors qu'il a accompli son temps d'esclavage, donc il se cherche un autre maître qu'Hachem. C'est une forme d'idolâtrie, d'avodazara, une manière de se soumettre encore à un pouvoir humain comme les Bnei Israël l'étaient à Pharaon. La conclusion qu'en tire Abravanel est que de ce principe, il découvre que l'esclavage hébreu ne saurait être illimité en durée et qu'à cette servitude, une limite doit être fixée. Et d'ailleurs, un esclavage illimité équivaudrait au meurtre d'une vie, comme il est dit, rappelle-t-il, en Jérémie 34, 17. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, vous ne m'avez point obéi, quand il s'agissait pour chacun de proclamer la liberté, alors le mot liberté c'est ici dror, chez Yirmiyahu, de son frère, de son prochain. Eh bien moi, dit l'Éternel, j'ai proclamé contre vous la liberté du glaive, de la peste et de la famine, et je ferai de vous un objet d'épouvante pour tous les royaumes de la terre. Abravanel commente en disant que s'applique ici le principe « Mida keneged Mida ». Puisque les Bnei Israël se sont comportés en meurtriers à l'égard de leurs frères, c'est-à-dire en les soumettant à un labeur sans limite, on leur appliquera la peine des meurtriers. Alors celui que le Bédine vend pour vol, qui est un cas particulier, sortira au bout de 6 ans révolus au début de la 7e année. Quant à celui qui se vend lui-même pour un nombre d'années de son choix, il sortira de toute façon au Yovel, au Jubilé ou à la mort de son maître. Bon, je n'entre pas dans le détail que les commentateurs développent abondamment sur tous ces points de halakha. Sur la troisième question, Abravanel explique que le maître ne dispose pas du droit d'imposer une épouse israélite à son esclave et que si l'esclave est marié à une israélite, le maître doit accueillir celle-ci et nourrir sa famille jusqu'à sa sortie. Yetziyah, le terme est assez important, on le verra. Mais en revanche, le maître dispose du droit d'imposer à son esclave une épouse cananéenne dont la progéniture issue de ce mariage ne sortira pas avec l'esclave. Ça, c'est aussi dans Vayikra 25-46. C'est un des sens qui est donné au verset « Seul il est venu, seul il partira ». Enfin, Abravanel relie le nombre de 6 années, et ça c'est important. Pourquoi Hachem fixe à 6 années, et pas 2 ou 3, dit-il, c'est une bonne question. Alors il le relie à 2 choses, à la Shemitah et au Shabbat, afin de bien montrer que ces lois sont d'origine divine, encore une fois, en dépit de leur ressemblance avec celles des Noachides ou des nations. Et, ajoute-t-il, leur sens profond est à rechercher du côté du ridouche, de la régénération du monde comme de la création. Alors je passe, comme je vois que je parle assez longtemps déjà, je passe tout de suite à la conclusion en forme de proposition risquée. Et en me demandant si, au fond, dans cette idée de... Alors, encore une fois, l'esclavage tel qu'il est décrit dans les premiers versets de Mishpatim est décrit par les commentateurs, que ce soit le Malbim et d'autres, comme profondément différent de l'esclavage égyptien, et même construit par opposition à l'esclavage égyptien. On l'a vu sur le caractère illimité de l'esclavage égyptien, contrairement au caractère limité de l'esclavage hébreu. Par ailleurs, un maître, est-il précisé, ne saurait imposer à un esclave hébreu des travaux dégradants ou inutiles. Par exemple, on n'imposera pas des travaux analogues à ceux que les Égyptiens faisaient faire au Bnei Israël, des travaux superflus ou inutiles. Rachid commente cela dans la paracha Behar 25-39 de Vayikra, comme un travail déconsidéré qui le désigne comme serviteur, qui lui donne un statut de serviteur, comme faire porter derrière soi ses vêtements au bain public, ou se faire chausser par lui ses souliers. Et Rashi précise au verset 25-43, « Tu ne domineras pas contre lui avec dureté, c'est-à-dire en faisant exécuter un travail inutile afin de l'humilier. Ne lui dis pas, dit Rashi, « Réchauffe-moi cette coupe alors que ce n'est pas nécessaire » ou « Bêche ce plant de vigne jusqu'à mon retour ». Donc, il y a évidemment l'atténuation. Mais est-ce qu'on peut s'en satisfaire? Il me semble, et c'est ce que je voudrais risquer en conclusion, qu'il y a plusieurs autres directions qui nous permettent de penser sur quelle base pourrait être élaborer une notion de liberté tirée des sources juives. D'abord, l'insistance, y compris dans Vayikra, sur Arikha, c'est-à-dire ça choque le lecteur, puisque au fond, d'une certaine manière, l'esclave juif a un statut privilégié par rapport au pauvre cananéen ou à la pauvre servante cananéenne reproductrice d'esclaves pour son maître. Bon, ça choque. En réalité, je pense qu'il faut le prendre comme l'idée que sur cette atténuation de l'esclavage se définit quelque chose comme la fraternité, c'est-à-dire un des fondements d'une société politique. Bon, c'est une direction qu'on pourrait suivre, je l'indique. J'avais envie d'évoquer, mais je ne veux pas, encore une fois, être trop long, la lecture qui a beaucoup résonné dans mes oreilles quand je lisais le commentaire d'Apravanel, c'est celle d'un des plus beaux romans, à mon avis, du XXe siècle, qui est « Le pavillon des cancéreux » de Solzhenitsyn, et dans lequel, qui décrit un homme, Oleg Kostogoglov, qui désigne par Oleg, qui après, qui a été sorti de son camp pour être soigné d'un cancer en Ouzbékistan, dans une ville imaginaire d'Ouzbékistan. Et donc, contrairement à ses compagnons de chambre, lui, disons, voit sa maladie régresser et il est libéré. Et donc, il est libéré, mais comme étaient libérés les anciens zecs, c'est-à-dire qu'il est assigné à résidence, alors qu'il est peut-être bourgeois, dans une ville d'Ouzbékistan. Et il décrit son premier jour, à la fin du roman, dans un des chapitres que je trouve vraiment sublime, qui porte le titre de « Le premier jour de la création ». Et il décrit les promenades de cet homme libéré qui ne sait pas quoi faire de sa liberté, qui a oublié la valeur de l'argent et qui, au fond, qui profite de tout et qui est dans inadaptation absolue à cet univers qu'il retrouve et qui était enchanté de tout. Le premier jour de la création, le Chidush Olam. Est-ce que ce n'est pas aussi le sens qui nous est donné par la limitation du temps d'esclavage à partir des six jours de la création? C'est-à-dire qu'au fond, la liberté doit se penser comme un renouvellement du monde. Et c'est un peu ce que Solzhenitsyn parvient de façon extraordinaire à mettre en scène dans le chapitre de ses romans. Alors, je dirais en conclusion, oui, la Torah ne propose pas de théorie abolitionniste parce que, au fond, on a l'impression qu'on ne peut penser l'esclavage en dehors de la sortie de cet état, la yetsia. La liberté, c'est la yetsia. Mais peut-être il y a l'idée d'un affranchissement ou d'une abolition continuée, comme on parle de création continuée. Il faut qu'il y ait de l'esclavage pour qu'il y ait de la liberté, et donc ça ne s'arrête pas, en ce sens très précis, à l'Égypte. Alors, quel sens cela aurait pour définir une politique juive? Et je terminerai par là, hein, c'est-à-dire à un niveau collectif, politique, et bien peut-être c'est à partir de cela qu'il faudrait penser quelque chose comme le messianisme, comme le suggère Maïmonide, c'est-à-dire comme un monde qui est différent, mais dont la différence est infime, mais cette infime différence fait toute la différence. Merci de votre attention.
Merci beaucoup, Nicolas, pour cet exposé très dense. Beaucoup apprécié la méthodologie que vous avez dit, que vous avez exposé un petit peu au tout début, de passer par la philosophie et de terminer par la Torah. Bon, alors peut-être que pour être libre, on va essayer de remettre l'esclavage au goût du jour. Alors, comme vous connaissez, on va passer maintenant à la séquence des...